êtes sur Radio Grand Ciel et c'est le moment de votre cup of tea en compagnie de Véronique Réau avec Émilie à la technique. Le mois dernier, nous avons survolé la vie de Marianne Evans, alias George Eliot, une vie pleine de ruptures, de déceptions, de drames, mais aussi une vie passionnée et passionnément vouée à la littérature. Ce mois-ci, nous allons survoler, on ne peut faire guère mieux en 15 minutes, l'œuvre de cette immense écrivaine. Il nous faudra même une seconde émission pour arriver au bout de cette évocation, avec l'espoir qu'elle vous donnera l'envie de vous intéresser à cette œuvre gigantesque, touffue, mais qui vaut vraiment la peine que l'on s'y plonge, même s'il faut, pour ce faire, s'armer de temps et de courage. Nous nous intéresserons à son œuvre romanesque, laissant de côté ses activités de traductrice, poète et essayiste. Mais c'est bien sûr comme romancière qu'elle a connu la gloire de son vivant et qu'elle demeure, près de 150 ans après sa disparition, au premier rang dans l'histoire de la littérature occidentale. 7 romans aux dimensions impressionnantes, entre 700 et 1100 pages, ce qui n'était d'ailleurs pas rare à l'époque victorienne. C'est en 1858 que paraît sa première œuvre de fiction, sous forme de feuilleton dans un magazine, puis sous forme de livre, signé George Eliot. Il s'agit des Scènes de la vie du clergé, une œuvre dans laquelle les portraits des pasteurs dont il est question dans les trois récits est secondaire, le rôle principal étant laissé à la peinture, tour à tour tendre ou cruelle, souvent pleine d'humour, de la vie dans une petite communauté rurale au début de la révolution industrielle en Angleterre. Le grand angliciste Jean Gattegno écrit à propos des Scènes de la vie du clergé. Dès cette première œuvre, elle fait le choix de peindre des héros qui fassent partie de l'humanité moyenne et en soient pleinement représentatifs. Scène de la vie du clergé ou l'entrée en douceur du réalisme dans la fiction anglaise. L'un des traits marquants de l'écriture de George Eliot, dont l'éditeur Blackwood disait qu'elle serait capable d'intéresser son lecteur à la vie des vers de terre, c'est cette capacité qu'elle a à dessiner le caractère d'un personnage en quelques mots. Ainsi décrit-elle l'un des pasteurs dont il est question dans l'œuvre. « Je crois que c'est un bon et honnête homme, quoique l'étage supérieur de son individu ne soit pas très bien meublé. » Elle a également un talent unique pour évoquer une atmosphère, rendre vivante une scène, donner au lecteur l'impression qu'il en fait partie. J'ai été frappée par cette puissance d'évocation, cette technique d'écriture que l'on pourrait qualifier de cinématographique. Lire un livre de George Eliot, c'est voir le film de l'histoire qu'elle raconte. Voici le début de la nouvelle intitulée « La conversion de Jeanne », la troisième nouvelle du recueil. « Non, dit l'avocat Dempster, du ton déclamatoire d'une voix forte et depuis longtemps rauque. Tant que le Créateur me laissera en possession de ma voix et de mon intelligence, je ne souffrirai pas lâchement que l'on insulte notre vénérable pasteur qui, pendant un demi-siècle, nous a donné une instruction salutaire. Il faisait très chaud ce soir-là, mais surtout dans le bar de l'auberge du Lion Rouge, où M. Dempster était devant son troisième verre d'eau-de-vie. C'était un homme grand et assez massif. Le devant de son costume était totalement couvert de tabac, et le chat, s'étant approché de lui, avait été pris d'un violent éternuement, incident qui, mal interprété, l'avait fait mettre à la porte. M. Dempster se tenait habituellement le menton rentré et la tête penchée en avant, fatigué probablement d'un occiput prépondérant et d'un frontal bombé. On remarquait ses joues bouffies et une bouche saillante malgré l'absence de lèvres. Quant à son nez, je puis dire seulement qu'il était plein de tabac. Comme il était impossible de saisir son regard, il eût été difficile de se prononcer sur la couleur de ses yeux. Tout juste un an après les Scènes de la vie du clergé, paraît Adam Bede, dont on peut dire que c'est le premier vrai roman de George Eliot. L'œuvre est immédiatement appréciée pour son réalisme et sa description de la vie rurale. Il paraît même que la reine Victoria, conquise par sa lecture, passe la commande de 2 tableaux illustrant certaines scènes. Adam Bede présente la vie d'une communauté rurale fictive, très unie, de l'Angleterre profonde en 1799, et aussi, mais dans une moindre mesure, celle du comté voisin, le Stonyshire, aride et minier. Le roman s'organise autour d'une sorte de rectangle amoureux, constitué par la toute jeune et ravissante Hetty Sorrel, trop innocemment vaniteuse pour résister au charme du jeune squire, le capitaine Arthur Donnithorne, ainsi qu'Adam Bede, son soupirant malheureux, et Dinah Morris, sa cousine prédicatrice méthodiste, dont la beauté et la ferveur n'ont d'égal que la vertu. Sur le fond de campagne idyllique se greffe une histoire de séduction et d'infanticide qui permettent aux deux personnages naturellement vertueux, Adam Bede et Dinah Morris, de s'unir après de nombreuses tribulations, chacun à sa manière représentant une forme d'héroïsme fondée sur les valeurs morales et les habitudes de vie propres au milieu rural. Le roman célèbre une Angleterre disparue, démodée, déférente et stratifiée, qu'ont remplacé les confusions et les contradictions d'un présent industriel et urbain, selon les mots de George Eliot. Depuis sa parution, l'ouvrage n'a jamais connu d'éclipse et a constamment été réédité. Il figure régulièrement au programme des écoles secondaires et des universités, tant au Royaume-Uni que dans les pays étrangers anglophones ou pas. 1860 marque la parution du Moulin sur la Flosse, l'un des plus célèbres romans de George Eliot et certainement le plus autobiographique. Le thème principal en est l'amour tragique entre un frère et une sœur qui se brouillent pour se réconcilier dans la mort. Écho évident aux relations tumultueuses entre Marianne Evans et son frère Isaac. Maggie Tulliver grandit dans le moulin de ses parents avec son frère Tom, qu'elle aime et admire profondément. Elle déclare « Je l'aime plus que n'importe qui au monde. Quand nous serons grands, j'irai habiter avec lui et je tiendrai son ménage. Nous vivrons toujours ensemble. » Comme Marianne, Maggie est une enfant laide, intelligente et indépendante. Mais frères et sœurs se disputent souvent, le caractère bouillant et emporté de Maggie n'arrangeant rien. George Eliot écrit « Elle se souciait fort peu d'avoir de jolis cheveux, mais on entendait qu'on appréciait son intelligence et qu'on ne la réprimanda pas toujours à propos de tout. » Quand il est envoyé chez le révérend Stelling pour poursuivre son éducation, Tom se détache de Maggie, mais prend fait et cause pour son père qui s'embourbe dans un procès compliqué. Hélas pour la famille Tulliver, la cause est perdue et tous les biens vendus. Le père Tulliver, diminué par une attaque, ne peut plus vraiment subvenir aux besoins des siens et il fait promettre au jeune Tom de rembourser les dettes de la famille et de restaurer l'honneur des Tulliver. Avec acharnement, Tom économise chaque sou et entretient en son cœur une haine farouche contre l'avocat Wackham, responsable de la ruine des Tulliver, et contre son fils Philip, un jeune homme bossu. Pour ne rien arranger, Maggie s'éprend de Philip Wackham, puis du fiancé de sa cousine, la douce Lucie, deux sentiments qui ne causeront que tourments et malheurs. Marcel Proust écrivait qu'il ne pouvait lire deux pages de George Eliot sans pleurer. Si un roman peut légitimer cette réaction, c'est certainement Le Moulin sur la Flosse. Le livre est également attachant par la peinture poétique qu'il livre de l'existence quotidienne la plus humble. Et il contient aussi des pages où George Eliot laisse toute la place à son talent pour le sarcasme. Mrs. Tulliver, la mère de Maggie, est une demoiselle Dodson. Ses sœurs sont Mrs. Glegg et Mrs. Pullet. Lors d'une réunion de famille, les sœurs se retrouvent et voici une description de la scène. En l'absence de Mrs. Tulliver, les sœurs s'accordèrent à trouver que le sang Tulliver ne se mêlait pas bien avec le sang Dodson. Qu'en fait, les enfants de la pauvre Bessie étaient Tulliver et que Tom, quoiqu'il eût le teint Dodson, serait probablement aussi contrariant que son père. Quant à Maggie, c'était le portrait de la sœur de Mr. Tulliver, une grande femme osseuse qui s'était mariée aussi pauvrement que possible. Elle n'avait point de porcelaine et son mari peinait à payer ses fermages. Mais quand Mrs. Pullet fut seule à l'étage supérieur avec Mrs. Tulliver, les remarques furent naturellement au désavantage de Mrs. Glegg et elles se dirent en confidence qu'on ne pouvait savoir quelle sorte d'épouvantail serait bientôt Sir Jane. George Eliot devait être une fine observatrice car ses personnages sont tous plus vrais que nature. Notre écrivaine ne chôme pas. Dès 1861 est publié son roman suivant, Silas Marner. L'action se situe au début du XIXe siècle. Silas Marner, tisserand, fait partie d'une petite congrégation calviniste dans un bourg déshérité d'une ville du nord de l'Angleterre. Il est accusé à tort d'avoir volé l'argent de la congrégation. En fait, tout semble indiquer que Silas a été joué par son meilleur ami, William Dane. Condamné, Silas se voit rejeté par la femme qui lui était promise, laquelle épousera William Dane. Le cœur brisé et sa vie en morceaux, Silas décide de quitter la ville. Il va s'établir dans un village des Midlands, où il mène une existence solitaire, ne vivant que pour son travail et pour les pièces d'or qu'il thésaurise. Un jour, l'or est dérobé par Dunsey Cass, le fils débauché du plus grand propriétaire terrien de la région. Silas plonge alors dans une profonde mélancolie, malgré les efforts de la communauté pour le secourir. Dunsey disparaît dans la nature et aucun soupçon ne se porte sur lui. Godfrey Cass, le frère de Danzey, a lui aussi quelque chose à cacher. Il s'est secrètement marié avec Molly Farren, une roturière opiumane dont il est maintenant séparé. Ce secret menace sa liaison avec Nancy, une jeune femme de haut statut social et moral. Une nuit d'hiver, Molly tente de revenir avec son enfant de 2 ans pour prouver qu'elle est la femme légitime de Godfrey et le ruiner. En chemin, elle prend de l'opium, puis, saisie de vertige, s'assoit dans la neige pour se reposer, la petite fille dans les bras. L'enfant se dégage de sa mère immobile et atteint la maison de Silas. Ayant trouvé l'enfant, ce dernier suit ses traces dans la neige et découvre que la femme est morte. Godfrey se rend lui aussi sur les lieux, mais choisit de ne pas révéler qu'elle était son épouse. Silas décide de garder la fillette qu'il prénomme Epi. La vie de Silas en est complètement changée. L'or qui lui avait été volé est symboliquement rendu dans la blondeur des cheveux d'Epi. Godfrey Cass est maintenant libre d'épouser Nancy, mais continue à dissimuler l'existence de son premier mariage et de son enfant. Cependant, il fournit un soutien financier à Marner pour l'aider à prendre soin d'Epi. Dolly, une voisine bienveillante, participe aussi à l'éducation de la petite fille. Grâce à son aide, Silas parvient non seulement à élever Epi, mais aussi à s'intégrer à la communauté villageoise. 16 ans plus tard, Epi est devenue la fierté du village. Elle est très liée à Silas, qui a trouvé en elle à la fois un rôle dans la société et le but de sa vie. Dans le même temps, Godfrey et Nancy s'attristent de ne pas avoir eu d'enfant. Finalement, le squelette de Dancey Cass est retrouvé avec le fruit de son forfait encore dans les bras au fond d'une carrière non loin de la maison de Marner, qui récupère ainsi son or. Godfrey, choqué par cette découverte qui résonne dans sa propre conscience, révèle le secret de son premier mariage à Nancy et avoue que Epi est son enfant. Ils envisagent de donner à la jeune femme l'éducation d'une fille de gentilhomme, ce qui la séparerait de Silas. Mais Epi refuse poliment, disant qu'elle ne peut concevoir de bonheur sans son père adoptif. Silas ne parviendra jamais à démêler les détails du vol qui a provoqué son exil. Son ancien quartier a été rasé et remplacé par une vaste usine. Néanmoins, il se résigne de bonne grâce à la pensée qu'il mène désormais une vie heureuse, entouré de sa famille et de ses amis. À la fin du récit, Epi se marie avec Aaron, fils de l'aimable voisine Dolly. Les jeunes mariés s'installent dans la nouvelle maison de Silas, que lui a offerte Godfrey, et toute la famille se réunit pour fêter ce bonheur. Voici les quelques lignes de conclusion du roman. Comme le cortège nuptial s'approchait, une acclamation cordiale s'éleva dans la cour de l'auberge. Epi avait maintenant un jardin plus grand qu'elle ne l'avait jamais espéré, et sous d'autres rapports, des changements avaient été opérés aux frais de Mr. Cass, leur propriétaire, pour répondre aux besoins de la famille de Silas, devenue plus grande. Le jardin avait été clos de pierres des deux côtés, mais sur le devant, il y avait une claire-voie à travers laquelle les fleurs brillaient d'allégresse pour répondre au bonheur des personnes unies qui s'avançaient en face d'elles. « Mon père, dit Epi, quelle jolie demeure nous avons !» Je ne crois pas qu'on puisse être plus heureux que nous. C'est sur cette vision optimiste que nous allons quitter provisoirement l'œuvre de George Eliot et nous nous retrouverons le mois prochain en sa compagnie pour une nouvelle tasse de thé.